Bonjour à tous. En cette fin d'année 2015, et en regardant à l'année qui vient de s'écouler, et bien sûr en nous projetant dans celle qui va venir, peut-être nous pouvons nous sentir placés dans un monde qui va mal, dans un monde inquiétant. Peut-être nous nous sentons dépassés par tout ce qui s'est passé cette année. Nous ne comprenons pas. Peut-être aussi que cela suscite des angoisses pour l'année prochaine. Stop, arrêtez-moi. Ce n'est pas ainsi que nous voulons aborder la prochaine année, l'année de grâce de la part du Seigneur pour l'année prochaine, 2016. Mais chacun d'entre nous, à cette fin d'année, a tendance à faire ce petit bilan et à regarder l'année prochaine. Et je vous propose ce matin, avant de le faire, de nous laisser encourager par un homme qui a vécu la course chrétienne avant nous, par un homme qui a chanté ces deux chants de tout à l'heure, du « J'aime l'Éternel », il y a très très longtemps, qui a décidé de placer toute sa confiance dans le Seigneur et d'agir et de vivre. Il s'agit du roi de Juda, Josias. Et nous allons courtement regarder qui il est, quelle est sa famille, et ensuite essayer de nous laisser encourager par son exemple. Alors, je vais simplement utiliser deux chroniques, 34 et 35, principalement. Donc, il nous est dit, au premier verset de 2 Chroniques 34, voilà ce qui nous est dit de Josias. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Pourquoi ? Comment est-ce possible ? Et les versets d'avant nous le disent, ce n'est pas une situation très agréable, c'est parce que son père, Amon, a été assassiné par ses serviteurs dans sa maison. Alors, faisons un peu connaissance d'abord de sa famille pour avoir une idée de pourquoi il est devenu roi, enfant, à l'âge de 8 ans. Et pour ceci, on va juste tourner la page d'avant, c'est 1 Chronique 33, les derniers versets, verset 21. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme avait fait Manassé, son père. Et je m'arrête là, parce qu'on parle maintenant de Manassé, son père, et je me sens obligé de faire un flashback supplémentaire pour dire quelques mots de son grand-père, le grand-père de Josias, un roi tristement célèbre pour son inconduite, pour tout le mal qu'il a fait en défaisant tout ce que son père, Ézéchias, avait établi, construit. C'est-à-dire, Ézéchias, c'est l'arrière-grand-père de Josias. Donc je précise tout ça, parce que moi, je ne suis pas très bon dans tous les liens de famille. C'est très difficile pour moi. Donc, je vous le répète plusieurs fois. Ézéchias avait vraiment établi quelque chose de solide, une foi solide en Dieu, avait fait revenir le peuple à Dieu. Mais le récit des actions de son fils Manassé est long et accablant en 2 Rois, chapitre 21. De Manassé, il est dit « Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, selon les coutumes abominables des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les fils d'Israël. Il rebâtit les lieux sacrés qu'avait fait disparaître Ézéchias, son père, et à la place, il fit élever des autels à Baal. » Un peu plus loin, il est dit qu'il fit passer son fils par le feu, qu'il pratiqua la divination et l'incantation, il interrogea les spectres et les esprits, il fit de maintes façons ce qui est mal aux yeux du Seigneur pour provoquer son indignation. Et la description est longue, et Manassé a été roi pendant 52 ans à Jérusalem. C'est lui qui était le pire roi de Juda. Mais il y a deux choses extraordinaires qui sont notées dans la Bible à la fin de sa vie. En fait, Dieu l'a amené directement en captivité à Babylone à la fin de sa vie. Et là, il fait quelque chose qu'on n'aurait pas soupçonné. Il s'humilie profondément devant Dieu, se repent de ses péchés et prie. Au chapitre 21, verset 12, il est dit « Dans son angoisse, Manassé apaisa le visage du Seigneur son Dieu en s'humiliant profondément devant le Dieu de ses pères. » Et la deuxième chose absolument extraordinaire, c'est au verset suivant, c'est que Dieu écoute la prière de cet homme et l'exauce. Manassé pria Dieu, le Seigneur l'exauça, entendit sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que le Seigneur est Dieu. Je reprends maintenant la lecture de ce que nous savons d'Amon. Donc on a dit tout à l'heure qu'il n'a régné que 2 ans, qu'il a fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme Manassé. Amon offrit des sacrifices à toutes les idoles qu'avait fabriquées Manassé son père, et il les servit. Il ne s'humilia pas devant le Seigneur, comme l'avait fait Manassé son père. En effet, lui, Amon, multiplia les offenses. Et le résultat, c'est que ses serviteurs complotèrent contre lui. Ils le mirent à mort dans sa maison. Mais les gens du pays frappèrent tous ceux qui avaient comploté contre le roi Amon, et ce sont les gens du pays qui firent roi son fils Josias à sa place. Et ainsi commence le texte de ce matin. Devenir roi à l'âge de 8 ans, ce n'est pas normal. Cela a été imposé à cet enfant, certainement l'empêchant de vivre sa vie d'enfant, même si bien sûr il ne dirigeait pas le pays à cet âge-là. Pourtant, il allait être préparé à cette tâche chaque jour de son enfance, puis de son adolescence, pour endosser les responsabilités de chef d'État pour diriger son pays. Et c'est à cause de l'inconduite de son père qu'il a dû entrer dans son destin de roi bien avant l'heure. Quel bagage familial pour cet enfant. Et ce n'est pas tout. Dans les versets que nous avons lus, on a aussi une idée du déclin moral et spirituel du pays. Et si on lit encore un peu autour, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'ennemis, que la guerre est menaçante. Et bien plus grave encore, c'est que le jugement de Dieu sur le peuple va s'accomplir bientôt, la déportation à Babylone. Mais ça, Josias ne le savait pas encore, ne l'avait pas encore réalisé. Donc voilà le contexte difficile et hostile dans lequel cet enfant devient roi. Et c'est vrai que, avec ce que nous venons d'entendre, sans connaître la suite, qui parierait sur le futur de cet enfant? Mais c'est sans compter sur la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, pour Josias, il ne sera pas dit tel père, tel fils. Josias, pour moi, ça évoque l'idée que tout est possible avec Dieu. Alors, lisons-le. Verset 2 de Chronique 34, le résumé de sa vie. Il nous est dit, il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, et il marcha sur les chemins de David, son ancêtre. Il ne s'en écarta ni à droite, ni à gauche. Voici le résumé de sa vie, l'essentiel, ce qui est important aux yeux de Dieu. Josias a su retrouver les chemins de David, son père spirituel, et il a marché dans l'intégrité, d'un cœur entier, dans les chemins de David. Alors comment est-ce qu'il en est arrivé là? Parce que ça, c'est le résumé, c'est la fin. Donc je vous donne déjà la conclusion. Verset 3, il nous est dit qu'à 16 ans, alors qu'il était encore un jeune homme, il commença à chercher le Dieu de David, son ancêtre. Voilà le passage clé de tout cet ensemble. Il a commencé à chercher le Dieu de David, son ancêtre. Malgré son père, malgré le contexte familial, son grand-père, il cherchait Dieu et il l'a trouvé. Et il a fait exactement ce qui est dit dans ce chant. Il s'est engagé complètement. Donc ça, c'est à 16 ans. À 20 ans, toujours dans le même verset 3, il commença à purifier le pays de Juda et Jérusalem des lieux sacrés, des poteaux sacrés, des idoles sculptées ou fondues. Et ça continue ainsi, la description continue. C'est formidable. À 16 ans, il cherche le Seigneur. À 20 ans, il agit. Il agit sur ce qu'il a compris. Il réagit à ce que Dieu lui a mis dans son cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. Vous vous rendez compte, il est parti dans son pays à arracher les idoles, les dieux des uns et des autres. C'est prendre, je pense, un grand risque. Il s'attaque tout de suite au culte idolâtre et je trouve qu'il est très courageux. Et il va même très loin. Au verset 6, il nous est dit qu'il va au-delà de son territoire, au-delà du territoire de Juda. Verset 6, il est dit « Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et jusqu'à Nephtali, sur toutes les places, il détruisit les autels et les poteaux sacrés, les idoles, il les brisa et les réduisit en poussière. Toutes les colonnes à encens, il les abattit dans tout le pays d'Israël. » Il n'était pas roi d'Israël. Et ensuite, il revint à Jérusalem. Il n'avait pas peur d'être impopulaire. Il ne craignait pas de perdre le trône. Il démarre, en quelque sorte, une révolution culturelle dans son pays. Voilà donc Josias. Voilà l'encouragement. Je dirais tout le reste, c'est la suite. Ce qu'il a commencé à faire, il l'a continué durant les 39 années de sa vie. C'est-à-dire, il a continué et a purifié le pays des idoles. Et on va s'arrêter encore lorsqu'il a 26 ans. Il nous est dit qu'après avoir purifié le pays et la maison du Seigneur, maintenant Josias, il se met à réparer la maison du Seigneur, à réparer le temple, parce qu'il avait été négligé pendant plusieurs générations. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il trouve le livre de la loi. Nous, on est surpris parce qu'on se dit comment ils ont fait pour le perdre. Et comment est-ce qu'il a pu même lui-même découvrir Dieu sans le livre de la loi? En tout cas, on lui rapporte ce livre, on le lui lit, et là, il tombe à genoux, il se repent, parce qu'il réalise que le jugement de Dieu est sur son pays. Ils vont être déportés en Babylone, les prophètes l'ont clairement annoncé, et il se repent. Il le fait d'abord personnellement, et ensuite il convoque tout le peuple. Les chefs religieux, les chefs politiques, et tout le peuple, il les assemble, il leur fait lire le livre, et ensuite, il leur fait faire une alliance, une consécration, un engagement avec Dieu. Et je vous lis ce beau passage, c'est les versets 31 et 33. « Le roi était debout à sa place, et il conclut l'alliance en présence du Seigneur, afin de suivre le Seigneur, d'observer ses commandements, ses édits et ses décrets, de tout son cœur et de toute son âme, et d'accomplir les paroles de l'Alliance inscrites dans ce livre. Il fit s'engager tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent conformément à l'Alliance de Dieu, le Dieu de leur père. » Verset 33, « Josias supprima toutes les abominations de tous les territoires appartenant aux fils d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir le Seigneur, leur Dieu. » Tant qu'ils vécurent, ils ne s'écartèrent pas du Seigneur, le Dieu de leur père. Ce dernier verset résume l'œuvre de la vie de Josias. Il est complété par un texte long dans 2 Rois 23, qui est le texte parallèle, qui raconte comment Josias a concrètement purifié le pays des idoles, une à une, comment il a détruit le haut lieu que Jéroboam avait établi à Bethel, c'est le début des rois d'Israël, comment il a accompli à la lettre la prophétie qui avait été donnée à Jéroboam par un prophète de son époque. On a donc ici un homme de foi et un homme d'action. Et on voit ici que Dieu l'a formidablement utilisé pour ramener son peuple à lui. Et je trouve que c'est vraiment un encouragement pour l'année à venir, de simplement faire confiance à Dieu et d'agir dans la mesure où chacun d'entre nous pouvons le faire dans ce que le Seigneur nous appelle. Mais pour ne pas idéaliser un homme, pour ne pas le mettre sur un piédestal, Josias, regardons à la fin de sa vie, ça nous rappelle qu'il est un homme, comme nous, faillible, et intéressons-nous donc à la mort de Josias. Et je vous lis ce texte, c'est donc toujours dans le même chapitre, c'est le chapitre 35, les versets 20 à 27. Josias a 39 ans, et il a passé toute sa vie à supprimer les abominations dans son territoire de Juda et de servir le Seigneur. Il nous est dit, après tous ces événements, lorsque Josias eut réparé la maison du Seigneur, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre Carchémish sur l'Euphrate. C'est plus au nord, entre la Syrie et Turquie d'aujourd'hui. Et Josias marcha à sa rencontre. Nécho lui envoya des messagers pour lui dire « Que me veux-tu, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je marche aujourd'hui, mais contre une autre maison royale avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Laisse donc agir Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne changea pas d'avis. Bien plus, il se déguisa pour l'attaquer. Il n'écouta pas les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il vint livrer bataille dans la plaine de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, qui dirent à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs le sortirent de son char, le placèrent sur un autre de ses chars et l'emmenèrent à Jérusalem, où il mourut. On l'ensevelit dans les tombeaux de ses pères. Tout Juda et Jérusalem prirent le deuil de Josias. Et Jérémie composa une lamentation sur Josias. Tous les chanteurs et chanteuses ont mentionné Josias dans leur lamentation jusqu'à ce jour. On en fit une règle en Israël. Le reste des actions de Josias, ce qu'il a fait avec fidélité, conformément à ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, ses actions, les premières à la dernière, sont écrites dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Alors ce récit est surprenant. Il semble dénoté avec de tout ce que nous venons de dire sur Josias. Josias intervient dans une affaire qui ne concerne pas. Il aurait suffi qu'il reste chez lui ce jour-là et pour continuer à faire ce qu'il sait faire. Non, il se sent menacé par le pharaon et il décide de le confronter. Et celui-ci lui explique bien qu'il ne fait que passer, car il veut aller beaucoup plus loin au nord, donc à Carchémish sur l'Euphrate, qu'il n'a aucune intention mauvaise envers Josias, et probablement il lui a bien préparé, bien indiqué qu'il ne voulait que passer avant même de venir. Et cela aurait dû suffire pour convaincre Josias. Mais ça ne le convainc pas. Et vous voyez que Dieu va utiliser le roi d'Égypte, pour prophétiser, pour avertir Josias de la manière suivante. Le roi d'Égypte dit clairement qu'il est en mission de la part de Dieu et il met Josias en garde de ne pas s'opposer à Dieu. Il dit « Je suis en guerre et Dieu m'a dit de me hâter. Laisse donc agir Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » C'est vraiment un avertissement prophétique que le roi d'Égypte lui donne. Et on se dit, mais pourquoi Josias n'écoute pas l'Éternel lorsqu'il lui ordonne de ne pas s'engager dans ce combat ? En fait, je pense que c'est parce qu'il ne peut pas imaginer un seul instant que Dieu puisse parler par cet Égyptien, idolâtre, un étranger ennemi du peuple de Dieu, qui ne peut avoir aucune part en Israël au salut. Je pense qu'il a considéré que l'Égyptien blasphémait contre le vrai Dieu. Mais au verset suivant, la Bible nous confirme bien que les paroles du pharaon Nécho venaient bien de l'Éternel. Et les aversions, les préjugés de Josias l'avaient rendu sourd à la volonté de Dieu. Et l'issue fatale de cette journée souligne bien la responsabilité de Josias quant à sa reconnaissance de la voix de Dieu. Il avait justement lu les Écritures, il avait entendu les paroles des prophètes dans lesquelles on peut comprendre que Dieu s'intéresse à toutes les nations, à toutes les ethnies de la terre pour leur salut. Dans le Nouveau Testament, nous lisons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et nous sommes en train de fêter la venue de Jésus dans le monde pour tous les hommes, afin que ceux qui croient en lui soient sauvés. Et bien sûr, il n'avait pas lu le Nouveau Testament, mais il avait assez d'éléments, d'après Dieu lui-même, pour comprendre que Dieu parlait aux nations également. Dieu parle aux nations en tout temps et de tout temps, et il utilise telle ou telle nation pour parler à une autre, ou pour agir sur une autre, ou pour exercer un jugement. C'est exactement ce qui est illustré dans le passage que nous venons de lire. Dieu a envoyé le pharaon Necho exercer son jugement sur Carchémish, à Carchémish sur l'Euphrate. Et Pharaon savait même ce qu'il faisait. Et quand nous lisons les prophètes dans l'Ancien Testament, nous voyons que beaucoup de prophéties concernent des nations autres que le peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement pour montrer à Israël, son peuple, que Dieu règne partout, qu'on a ces prophéties. Elles sont aussi données pour prévenir ces peuples, pour qu'eux aussi puissent répondre à la parole de Dieu, pour leur annoncer ce qui va arriver, pour les avertir, pour qu'ils puissent se repentir. Je cite juste deux, trois exemples qui me sont venus comme ça, et je ne sais, Josias les connaissait peut-être pas tous. Je pense à un exemple bien connu, c'est ce qui s'est passé à Ninive, lorsque Dieu a envoyé son prophète Jonas. Pourquoi il l'envoie ? Parce que Dieu a vu une grande foule, la grande ville de Ninive, avec des personnes perdues. Il y a la compassion de Dieu qui est là, et il envoie son prophète prêcher la repentance, et ce jour-là, la ville est sauvée, parce qu'ils se sont repentis, ils ont jeûné, ils ont prié, et Dieu les a laissés vivre, n'a pas exercé son jugement. Ailleurs, dans le livre de Jérémie, 6 fois nous lisons que Dieu appelle son serviteur Nabucodonosor, le roi de Babylone, et il l'envoie en mission. Et ça, c'est quelque chose que Josias aurait pu lire. Ésaïe 19, un chapitre extraordinaire qui nous parle de l'Égypte, justement. Un jour, le Seigneur sera présent en Égypte. Je vous lis juste 2-3 extraits à la fin du chapitre, versets 21 et 23. Voilà ce qui est dit sur l'Égypte. « Le Seigneur se fera connaître aux Égyptiens, et ce jour-là, les Égyptiens connaîtront le Seigneur. Ils le serviront en lui offrant des sacrifices et des dons. Ils feront des promesses au Seigneur et les réaliseront. Un jour, une route ira d'Égypte en Assyrie. » Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Ensemble, ils serviront le Seigneur. Un jour, le Seigneur de l'univers bénira le monde en disant « Je bénis l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie que j'ai créée de mes mains et Israël, la part qui m'appartient. » Dieu nous parle de la manière qui lui convient. Il n'a pas de canal unique, de voie imposée et il est de notre responsabilité de l'entendre, de distinguer sa voix et de répondre, de réagir. Vous vous souvenez, rien que la semaine dernière, nous avons évoqué les astrologues, les magiciens idolâtres de l'Orient qui sont venus, qui ont suivi l'étoile et sont venus en Israël pour adorer le Sauveur du monde. Dieu leur avait révélé cela. Ils sont venus apporter leur cadeau précieux au Sauveur du monde alors que les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu, alors qu'ils venaient pour eux. Donc Josias n'a pas pu admettre, imaginer que Dieu pouvait lui parler par le roi d'Égypte. Et là, il avait des œillères. Et nous aussi peut-être, on a des œillères à enlever, que le Seigneur doit nous enlever. Et pour terminer, je voudrais juste encore dire quelques mots sur cet événement que nous venons de lire, sur cet incident. Parce que, à la première lecture, cela semble bien triste, un échec, une fin de vie malheureuse. En fait, j'insiste un peu pour aujourd'hui, mais pour dire que ce n'est pas le plus important dans la vie de Josias. Le récit de la vie de Josias, on a dit qu'elle était en deux endroits, dans les Rois et en Chroniques. Et le livre des Rois, en fait, ne mentionne pas du tout ce qui s'est passé ce jour-là, indiquant que ce n'est pas la chose la plus importante. D'accord ? Mais le livre des Chroniques le fait, et c'est pour ça que nous l'avons lu ce matin, mais c'est pour en tirer une leçon pour nous aujourd'hui. Le livre des Chroniques, il répète l'histoire en y donnant des leçons spirituelles pour nous aujourd'hui. Laquelle ? Sans doute qu'il ne faut jamais lâcher la main de Dieu pour que nous puissions toujours entendre sa voix et s'y conformer. Oui, il nous faut grandir dans le renouvellement de notre intelligence grâce à la parole de Dieu, à son esprit, pour que nous puissions recevoir ses pensées toujours, parce qu'elles ne sont pas naturellement nos pensées. Mais il y a ici bien plus, car malgré les bons avertissements que nous recevons chaque dimanche et chaque jour quand on lit la Bible, les chances que nous tombions un jour ne sont pas infimes. C'est possible. Nous pouvons très bien imiter ce roi un jour ou l'autre. Josias a mal agi en confrontant le Pharaon. Et pendant qu'il le faisait, je pense qu'il l'a réalisé. Et on le voit parce qu'il se déguise pour aller au combat. Ça ne vous dit rien, ça, quand je vous ai lu cette histoire, ça ne vous rappelle pas une autre ? Un roi qui se déguise sur son char pour aller combattre et qui ensuite est tué par une flèche au hasard, c'est le roi Akab. Et ce n'était pas une bonne chose. Donc, ce jour-là, Josias a compris qu'il ne faisait pas ce qui est bon. Mais maintenant, regardons les choses du côté de Dieu, du côté de la providence divine. Cet épisode de la mort de Josias, c'est vraiment une application magnifique de Romains 8, verset 28, qui dit que « tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan ». Notre vision humaine nous montre Josias qui meurt à Megiddo pour n'avoir pas écouté l'avertissement divin. Mais quand on relit les textes, je crois que la pensée de Dieu est bien différente. Josias aimait l'Éternel. Et comme l'Éternel le lui avait promis, l'Éternel reprend ce roi exemplaire auprès de lui, afin qu'il ne connaisse pas le terrible chaos dans lequel s'enfonce le pays, malgré tous ses efforts de reconstruction. En effet, quand Josias, à l'âge de 26 ans, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, lorsqu'il a lu ce livre de la loi, qu'il s'est humilié, qu'il s'est repenti devant Dieu pour les péchés de son peuple, voici la promesse que Dieu va lui faire. De Chroniques 34, verset 26. Vous direz au roi de Juda, ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, ces paroles, tu les as entendues, donc les paroles des prophéties. Puisque ton cœur s'est attendri et que tu t'es humilié devant Dieu, quand tu as entendu ces paroles contre ce lieu et ses habitants, puisque tu t'es humilié devant moi, que tu as déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, eh bien, moi aussi, j'ai entendu, oracle du Seigneur. Moi, je te réunirai à tes pères, tu seras ramené en paix dans leur tombeau. Tes yeux ne verront rien de tout le malheur que je fais venir sur ce lieu et sur ses habitants. Il nous faut réaliser, reconnaître que la mort, y compris notre mort, est dans la main de Dieu pour notre bien. Le Seigneur nous invite à considérer que notre avenir éternel est plus précieux, plus exaltant que nos préoccupations terrestres. Et je dirais la leçon qu'on peut tirer de tout ça, ou plein de leçons, c'est que nous n'avons pas à vivre dans la crainte de ne pas entendre ou comprendre la voix de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher un don de discernement particulier pour bien entendre la voix de Dieu. Il s'agit juste de ne pas lâcher sa main. Ou dans les paroles du prophète Michée, ce que le Seigneur te demande, c'est de suivre avec soin le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Et je fais souvent cette prière par rapport à l'égarement. C'est mon ami des États-Unis qui utilise cette expression qui dit « Lord, save us from ourselves ». Seigneur, sauve-moi de moi-même, protège-moi de moi-même. Et c'est une prière personnelle. Protège-moi de mes propres raisonnements, de mes certitudes. C'était le souci de Josias. Il était sûr dans ce qu'il faisait là. De mes folies. Accomplis ta volonté malgré moi, même si je ne comprends pas tout, si je m'y prends mal, si je ne discerne pas assez bien ta voix. Je te confie ma vie et je ne veux pas lâcher ta main. Et si Dieu l'a fait pour Josias, il le fera aussi pour nous, pour chacun d'entre nous. Nous pouvons nous fier à sa divine providence et nous aussi recevoir pour nous les paroles de réconfort que Dieu a données à Josias. Tes yeux ne verront rien de tout le malheur que je fais venir sur ce lieu. Le Seigneur nous donne cette phrase adaptée, vous pouvez l'adapter à chacune de notre vie, de nos circonstances. Alors laissons-nous encourager par l'exemple de la vie de Josias. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur et il marcha sur les chemins de David, son ancêtre. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette occasion de fêter Noël, la venue du Seigneur Jésus-Christ, début de toute notre espérance. Merci parce que ce salut est parfaitement accompli. Merci Seigneur parce que nous pouvons répondre par la foi pour le salut et aussi pour comprendre notre vie et pour nous engager à te suivre. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour l'exemple du roi Josias qui nous a devancés dans sa marche avec toi. Seigneur, aide-nous, inspire-nous à te donner tout notre cœur et à agir selon ce que tu nous fais comprendre. Seigneur, merci parce que tu es au-delà, plus grand que nous, plus grand que tout ce que même nous, dans lequel toutes les choses dans lesquelles nous nous engageons. Seigneur, merci parce que tu nous gardes aussi parfois malgré nous. Seigneur, donne-nous d'entrer en toute confiance dans la nouvelle année qui s'approche et à te faire confiance pour notre vie. Amen.